Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 pour un nouvel opus de La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus. Commençons par le commencement.
Bonne année !
Enfin, ça y est, 2020 est derrière nous. À vous, chères auditrices et chers auditeurs, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. On vous souhaite de la joie, de l'amour, la santé évidemment, et surtout l'espoir. Que 2021 soit pour vous l'occasion de voir vos projets avancer et vos envies se réaliser. Après une année cauchemardesque, on vous souhaite un an de rêve, voire même d'utopie. On vous souhaite des rencontres et des découvertes. Et surtout, on vous souhaite de vivre pleinement, profondément et comme vous le souhaitez.
Pour cette première émission de 2021, on va explorer ensemble ce dans quoi on s'embarque pour cette nouvelle année. On espère que 2021 sera moins bordélique que 2020, se disait-on pendant les fêtes il y a seulement quelques semaines.
Que penser alors du fait que, au bout de 6 jours, on observe déjà un viking pied sur la table au milieu du Capitole, un président banni de Facebook et Twitter, un fichage des opinions politiques, philosophiques et religieuses déployées en France, et 2 week-ends qui s'est refait le visage.
Bref, encore une fois, notre brèche radiophonique prend place au milieu d'un contexte vraiment spécial. Vous commencez à avoir l'habitude, à contexte particulier, émission particulière. Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées depuis ce couvre-feu acte 2 et après la fin du deuxième confinement.
Vous l'aurez compris, les conditions dans lesquelles nous réalisons cette émission sont particulières. Enfin, particulières. On commencerait presque à s'y habituer à tout ça. Lorsque l'exception s'étend, la norme s'éloigne pas à pas. À force de rêver du monde d'après, on en arriverait presque à oublier le monde d'avant.
Alors on s'habitue, c'est ça l'idée ?
Eh ouais, ce qui était inédit devient peu à peu normal. Ce qui nous choquait tend à ne plus produire un tel effet. L'inacceptable devient habituel, s'ancre dans notre quotidien, s'institutionnalise.
Comment peut-on se retrouver à accepter ce qui était inédit ? Quelle magie fait que l'on s'habitue, que l'on s'y fait ? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon ? Et autre, mais on n'a pas le choix. Sont les symptômes d'un problème plus large. Cette béatitude, cette satisfaction face à l'incompréhensible, fait son lit sur le terreau de la contradiction.
La guerre, c'est la paix, disait Orwell.
La République et ses principes, c'est la raison à des lois liberticides, nous dit le gouvernement. On discutera de ces usages rhétoriques des fameux principes républicains dans la première partie de notre émission.
Et d'ailleurs, en parlant d'acceptation, on n'était pas tous dans la rue il n'y a même pas 2 semaines. J'ai l'impression qu'on parle plus du tout de tout ça. Ouais, en fait, on l'a notre mot d'ordre, on s'habitue.
Carrément, la loi sécurité globale, ce symbole de l'empêtrement de notre République dans le foisonnement de lois sécuritaires et liberticides. Ça en est où ? Ça cache quoi tout ça ? Ce sera l'objet de notre deuxième partie.
Enfin, on s'habitue. Pourtant, on observe sans arrêt qu'il se passe plein de choses autour de nous. Plein de gens se battent, offrent leurs ressources, portent leur voix et usent leur stylo pour ça. Dans cette mare de l'incertitude, les pavés pleuvent. Et vous verrez, ils ne viennent pas que des manifestants.
Les lanceurs d'alerte, ici, lanceurs de pavés dans la mare, font partie de ces garants d'une vérité plurielle sans laquelle la liberté n'a pas lieu d'être. Ils sont importants, ces lanceurs d'alerte. Dans l'actualité récente, comme dans la défense d'un monde plus juste, on était obligé alors de leur consacrer une partie.
Mais si on s'habitue à la catastrophe, ne peut-on pas aussi s'habituer au bien, à ce qui se construit en guise de réponse ? Ici, à Marseille, l'espoir est né. En tout cas, il se construit dans un lieu très spécial que nous tenons à vous faire découvrir. Et si, 2021, c'était finalement le début de ce monde d'après tant attendu ? On verra ça en quatrième partie de notre voyage radiophonique.
Makes you wonder what it all's got to do with me. Bloodless for now.
Au
République.
La République.
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 La République.
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 La République.
La République.
La République.
Républicaine.
La Républicaine.
La République.
Le Républicain.
La République.
La République.
La République, c'est moi.
Waouh, waouh, waouh. On s'y retrouve plus. Va falloir ralentir le rythme, sinon mon cerveau va exploser. À parler de République à tout va, on n'y voit plus très clair. Ce terme, qu'il soit sous sa forme substantivée, république, ou adjectivale, républicain, républicaine, est employé par des acteurs de bords politiques différents, à des moments qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et qui sont bien souvent sortis de leur contexte, ce qui entraîne une perte de sens encore plus grande. C'est une balle qui est jetée par des joueurs enfiévrés, qui s'évertuent à rendre un coup plus fort que celui reçu. Un véritable match de ping-pong. Et c'est à celui à qui aura le dernier lancé, et peu importe d'où il part, ce qui le porte et ses répercussions. Avec l'équipe de La Brèche, on a constaté ces derniers temps cette surenchère du mot, surtout par des membres du gouvernement, cette accumulation qui a croisé notre confusion et notre perplexité. On s'est demandé.
Qu'est-ce qu'hommes et femmes politiques cherchent à dire en employant ce terme ?
Est-ce une stratégie politique de leur part que d'y recourir pour s'afficher comme étant le plus fidèle à la République, érigé en système le plus juste qu'il soit ?
Est-ce un véritable attachement à une idéologie, à la période historique de son éclosion qui se manifeste par son emploi ?
Est-ce une course folle dont on n'interroge plus les raisons du départ, dont les participants se sont lancés dans l'arène à mille allures et qui sont maintenant pris au piège de la fumée née du piétinement de leur monture sur le sol sablé ?
Bon, ok, on s'emporte un peu avec ces métaphores d'équitation, qui sont peut-être pas les meilleures, mais vous voyez l'image. On s'est dit qu'il y avait un petit taf de recherche historique et sémantique qui s'avérait nécessaire pour dissiper la brume qui commence à nous enivrer. Un petit retour aux sources, quoi. Comme d'hab, vous commencez, chères auditrices et auditeurs, à nous connaître.
C'est vrai qu'on est hyper famous.
Bref, je disais, on n'est pas des experts, certes, mais on interroge, on éclaircit, à partir de nos questions, après avoir défriché ce qui nous apparaît d'abord comme un vaste bordel.
Bon, un petit peu de pédagogie pour commencer. On vous promet, ça nous sera utile à tous, et ça nous permettra d'avancer dans des débats qui deviennent vite houleux par manque de précision.
Mais si, vous savez, ces repas de famille ou entre potes, où personne ne s'écoute, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment.
Alors, on va faire nos profs. Tout d'abord, il faut distinguer République et démocratie. La République est un régime politique qui assure un fonctionnement en société. Le pouvoir n'est pas héréditaire et n'est pas détenu par le chef d'État seul, mais il est exercé par des représentants de la population, souvent élus. La démocratie, quant à elle, est un principe qui se base sur l'idée d'égalité des intelligences, pour reprendre l'expression du philosophe Alain Deneau. Comme le rappelle un autre philosophe, le très connu Jacques Rancière, la démocratie est fondée sur l'idée que chacun a la capacité de penser, de juger, d'agir, et qu'il partage cette capacité avec tous les autres. La démocratie se base sur l'idée que tous les citoyens sont aptes à réfléchir aux enjeux contemporains sans que cela nécessite de compétences spécifiques. Une fois ce distinguo fait, on allait se renseigner sur ces fameux principes républicains, sur un site on ne peut plus officiel, le site du gouvernement. À la page qui décrit les principes fondamentaux de la République, on peut lire l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958. La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Waouh, tu t'es pris pour De Gaulle ou quoi ? On n'est pas là pour rendre une disserte d'éducation civique. On est là pour analyser cette formulation. Et il est bon temps de temps en temps de faire des petites piqûres de rappel, pour éviter de tergiverser pendant des heures à des apéros ou à des dîners.
Par Zoom, hein, bien entendu, on est soucieux de nos vieux, nous.
En résumé, par ces principes, ce sont des caractères bien précis de la République française qui sont énoncés. D'abord, la souveraineté est exercée par l'ensemble du peuple, par l'intermédiaire de ses représentants. Aucun parti ni personne ne peut s'arroger la souveraineté nationale. Et le droit s'applique de la même manière sur l'ensemble du territoire.
Tu vas me faire croire que des hommes politiques ne bénéficient pas de temps en temps d'un traitement de faveur ?
Je fais que lire, moi. Après, second step. Quand on parle de laïcité, c'est à la fois le respect de la croyance dont il est question, et de la séparation entre l'Église et l'État.
Ouais, enfin, avec les mesures qui vont bientôt être appliquées, l'État s'est mis dans les affaires religieuses, et ça rend de plus en plus flou cette séparation.
C'est ce qu'envisage d'ailleurs le projet de loi confortant le respect des principes républicains, et on a bien prévu d'en reparler. Un autre caractère est celui démocratique, qui induit, je cite, « le respect des libertés fondamentales et la désignation des différents pouvoirs au suffrage universel, égal et secret ».
Ouais. Et quand le gouvernement met en place la loi de sécurité globale, c'est dans le respect des libertés fondamentales, ça ?
T'inquiète pas, c'est prévu que j'en parle plus tard.
Franchement, si on commence à enchaîner les exemples antidémocratiques, on en a pour la journée, voire l'année. Et pour finir, le caractère social affirme le principe d'égalité.
Ok, ça on en reparle aussi. Hein. C'est pas comme si les inégalités étaient amplifiées de manière indécente pendant ces confinements et que les milliardaires avaient vu leur fortune augmenter.
On est d'accord, hein. Mais c'est ce qui est marqué sur le papier.
Bon, t'es sympa, mais c'est pas tout. Tu nous as dit qu'on n'était pas là pour un cours d'éducation civique. C'est quoi le rapport avec la situation actuelle ?
Bah, montrer en quoi on est en train de vivre une totale dissonance entre les principes républicains auxquels le gouvernement fait sans cesse référence, alors qu'on a du mal à voir leur réalisation effective. On insiste plutôt à l'inverse de ce qu'ils prônent, quand on observe de face des réalités dont on se demande parfois si les élites s'y sont déjà frottées. Cette République et ses principes sont brandis comme un étendard dans des projets de loi, lors d'événements, de discours politiques, qui sont en fait le reflet d'une imposition d'une vision politique uniforme. Et elle sert comme de prétexte à l'instauration de mesures, dans le but de la défendre. Alors qu'en fait, ces mesures, franchement, la saccagent plus qu'autre chose.
On pense au projet de loi confortant le respect des principes républicains, initialement intitulé « Contre le séparatisme », lorsque Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, le présente en juillet 2020. Il a provoqué une flopée de critiques, le gouvernement étant accusé entre autres de stigmatiser les musulmans.
L'idée, c'est d'élargir les principes de la loi de 1905. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les gens qui représentent la République, et non pas leur religion, leur coutume ou leur appartenance personnelle. Cette loi, c'est une nouvelle étape, c'est un réveil républicain auquel le président de la République a appelé. Dès lors qu'une association ne respecte pas les valeurs de la République, on arrête de lui donner de l'argent public. La menace principale, c'est celle de l'islamisme, de l'islam radical. Le président de la République est très attaché à ce qu'on ne fasse pas une loi d'incantation, mais vraiment une loi concrète qui permette d'obtenir des résultats dans cette lutte contre les séparatismes et contre l'islamisme radical.
C'est en octobre que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avance le nom du projet de loi qu'il porte actuellement. Ce projet serait porté par une idéologie anti-séparatisme, en cherchant à combattre les projets qui s'organisent en marge de la République, dans le but de lui porter une atteinte, explique Marlène Schiappa, le jour de la présentation du texte. Après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, le gouvernement enrichit les dispositions du projet de loi et le 7 décembre, le Conseil d'État donne son accord. Le projet de loi est adopté au Conseil des ministres le 9 décembre. Il est en cours de lecture à l'Assemblée. Le projet de loi est un vrai fourre-tout où se trouvent pêle-mêle des mesures concernant la généralisation de l'imposition de neutralité à ceux qui travaillent dans les services publics, le contrôle des organisations et pratiques des religions et surveillance accrue dès leur financement, la protection renforcée des dépositaires de l'autorité publique, l'instruction obligatoire et contrôlée pour les enfants de 3 à 16 ans, la fermeture des lieux de culte par le préfet et le contrôle des associations cultuelles, le conditionnement à la souscription d'un contrat d'engagement républicain pour des subventions publiques. On arrête là la liste, le dessin est tracé. Si ce n'est pas inscrit tel quel dans le texte, ce qui est visé, c'est bien l'ennemi de la République, qui est une idéologie politique qui appelle l'islam politique, a affirmé Jean Castex après s'être défendu de stigmatiser les musulmans.
Ce projet de loi modifie certaines des grandes lois de la République pour que la promesse républicaine d'émancipation et d'égalité des chances soit une réalité pour tous.
Ce texte de loi s'inscrit évidemment dans les grands principes républicains, mais aussi dans les grands moments de la République. Les premiers articles du projet de loi évoquent la force qu'aura la République pour éviter la propagation des idéologies religieuses.
Combattre des entreprises idéologiques et politiques qui s'attaquent à nos valeurs.
De lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical.
Ce sont des associations cultuelles qui deviennent des relais d'influence étrangère défiant les lois de la République. Face à cela, la République entend se défendre. Et elle ne le fera pas en se repliant sur elle-même. Que chaque enfant bénéficie d'une éducation conforme aux principes de la République. Nous y avons déployé 53 quartiers de reconquête républicaine avec une augmentation inédite des moyens de la police.
Jamais la République ne doit accepter des accommodements, ne doit accepter des communautés qui revendiquent d'être en dehors de la République parce que leur foi serait au-dessus de la loi.
Ce que nous appelons l'idéologie, singulièrement de l'islam politique.
Dans le discours du 9 décembre, Jean Castex et Gérald Darmanin parlent à maintes reprises de valeurs de la République, et non de principes. Ce que des juristes dénoncent comme un glissement du champ juridique au champ moral. Car le terme valeur ne fait pas l'objet d'une définition précise et officielle, ce qui laisse porte ouverte à de larges interprétations.
Sans nier la gravité des attentats et la montée des extrémistes religieux, il faut interroger ce projet de loi qui, sous couvert des défenses de la République et du renforcement de la laïcité, menacent les libertés publiques et fondamentales. Et des juristes sonnent l'alarme. Parmi eux, le juriste Yves Jean-Clos. Il explique qu'au nom des principes républicains, tout un nouvel ensemble d'infractions et des procédures seraient mis en place, auxquelles s'ajoute un contrôle strict des associations cultuelles. Pour l'historien et sociologue Jean Bobéro, le projet de loi porte atteinte à la séparation des religions et de l'État. Il explique dans un entretien donné au Monde, le 14 décembre 2020, que ce projet prévoit d'accorder un contrôle plus grand sur l'organisation des religions et de leurs pratiques. Il menace aussi les libertés fondamentales et risque d'être contre-productif. Il ajoute
« La lutte contre l'extrémisme ne doit pas s'opérer au prix de la remise en cause des libertés, ni au prix du renforcement du sentiment d'exclusion d'une partie de la population. »
À la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi, on a comme l'impression que la France est menacée par les séparatismes, par l'islamisme radical, et que face à ces dangers, ce projet de loi est nécessaire pour combler les failles d'un arsenal juridique jugé insuffisant. Encore une fois, on n'est pas là pour nier la gravité des attentats, ni la montée des tendances religieuses extrémistes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut omettre les menaces sur nos libertés et les amalgames induits par ce projet de loi. La logique semble être la suivante. Puisque la République est menacée par des extrémismes religieux qui ont pour seul but sa destruction, il devient impossible de critiquer les contours de ce socle républicain. Et le gouvernement a devant lui un couloir pour instaurer les mesures qu'il souhaite, et même les plus liberticides.
J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. On aime le vin, le saucisson, les vraies valeurs de la nation que l'on marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam, les bonnes recettes.
Gardez pour vous votre émotion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes et vous n'avez.
Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression.
Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien.
Quoi que le noir soit le plus beau, la Marseillaise même enrayée, ça m'a toujours fait déjoler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue.
Il faut défendre la République contre vents et marées, même si on ne sait plus trop ce qu'elle signifie dans la bouche de ceux qui s'en revendiquent à tout va. Et plusieurs événements viennent illustrer cette tendance.
On pense par exemple à la rencontre en octobre dernier à Poitiers entre la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, et une centaine de jeunes en France pour débattre sur la place des religions dans la société. Alors que les jeunes présents ont eu le courage de pointer des décalages entre principes édictés et réalité, et alors qu'ils ont signifié les discriminations qu'ils subissaient quotidiennement, la secrétaire d'État a préféré se faire le porte-voix d'un mantra républicain hors sol. Un malaise est carrément installé dans la salle, et pour y couper court, la secrétaire d'État a entonné comme ça une Marseillaise qui ne fut pas reprise par les présents. Un flop total, qui démontre cette incapacité des politiques à faire face aux remises en cause du socle républicain, qui continue pourtant d'être brandie comme une réponse unificatrice, en niant les problèmes bien réels que vivent beaucoup de citoyens.
Un autre événement récent qui a fait parler de lui, celui de l'habit républicain. Porter le voile ne serait pas républicain. Aborder un décolleté trop plongeant non plus d'ailleurs. On ne sait même plus comment se saper dans ce bordel. Dans un témoignage poignant publié sur le site ZEP, zone d'expression prioritaire, une jeune femme partage son expérience de femme voilée. Elle nous raconte dans cet article intitulé « La République m'oppresse, pas mon voile » les discriminations qu'elle subit régulièrement parce qu'elle porte le voile. Elle rappelle que si sur les plateaux on parle constamment de femmes voilées qui seraient oppressées, ce sont rarement ces dernières et donc les premières concernées qui sont invitées pour en parler. Elle écrit Être voilée en France aujourd'hui est très difficile. La société devrait s'adapter aux différentes personnes qui la constituent. Plus loin, elle dit « J'ai l'impression qu'on m'impose une tenue vestimentaire, une personnalité, comme un jeu de rôle. Ce serait donc ça la République ? Un immense jeu de rôle dont les règles sont dictées par ceux qui appellent à l'union autour de cette République, mais qui en impose une vision fermée et non ouverte aux différences, le contraire même des principes républicains qui bâtissent notre constitution donc. Si vous n'acceptez pas de jouer le bon rôle, vous êtes expulsé de la partie, et tant pis pour vous.
Si ce jeu peut avoir lieu, c'est parce qu'il est acté et communément accepté que la République, c'est bien. Mais il semble bien plutôt qu'il s'agit d'une République prônée par des dirigeants, qui en font un argument rhétorique, pour disqualifier des opposants à des lignes politiques qu'ils imposent. Et ça a pour effet de créer une ligne de démarcation entre les bons et les mauvais citoyens, dans cette vague partie de jeu qui n'est plus du tout drôle à jouer.
République.
La République.
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 La République.
Dans cette chanson très polémique, aux armes, etc., au moins Gainsbourg a touché à des symboles républicains qui sont sacralisés, mais qu'on peine à voir en réalité. Le gouvernement focalise l'attention sur les questions d'identité, de laïcité, le tout au nom de la défense de la République, et fait oublier les vrais enjeux en cours et invisibilise les maux de notre pays et leurs origines.
Logique tristement classique, qui consiste à tourner le regard d'un côté pour agir pépère de l'autre.
Toi depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris. Tu portais le cri que le peuple exprime. Légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments. Ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les Sangbleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran. T'étais celle qu'on érige en exemple.
Répu, 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 répugnant, répu. Réunion république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp où les bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répu, 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 réunion république. Répu, 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 réunion république. Avec toi le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain.
Et sur cette question de menace de nos libertés, on ne pouvait tout simplement pas passer sous silence la loi de sécurité globale, qui depuis quelques mois déjà suscite moult remous.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actu de ces derniers mois, une superbe proposition de loi a été présentée à l'Assemblée nationale, la loi relative à la sécurité globale. Un article en particulier a retenu l'attention des journalistes, syndicats et citoyens, le fameux article 24.
Et puni le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale.
Donc ça, c'était la première version dans laquelle est parue la loi. Suite à la publication de cette proposition de loi, des manifestations ont éclaté partout en France, surtout dans les grandes villes. À Marseille, des milliers de manifestants ont témoigné de leur colère et de leur peur dans la rue. Il est reproché à cette loi d'être liberticide, contre la liberté d'expression. En effet, le manque de clarté de cette loi est inquiétant. C'est quoi porter atteinte à l'intégrité physique? De plus, cet article se placerait dans la loi du 29 juillet 1881 qui régit la liberté de la presse. Cette loi s'adresserait donc à la presse. Elle montre une volonté d'empêcher la presse de porter atteinte à la police. Mais est-ce que diffuser une preuve de violence policière, c'est porter atteinte aux fonctionnaires qui les a commises? Doit-on flouter le visage des policiers sur nos photos pour ne pas être inquiété? Autant de questions sans réponse qui ont inondé les réseaux sociaux, questionnements posés par le manque de clarté de cet article. Et, pour essayer de comprendre les motivations qui ont poussé La République En Marche à écrire cette loi, nous sommes allés voir Katira Combouzon, députée à Marseille. Elle s'est abstenue lors du vote de la proposition de loi à l'Assemblée.
Si j'ai pas voté pour cet article 24, je dis c'est pas sur un problème de fond, parce qu'au final, ok, il est peut-être pas placé au bon endroit, ou peut-être il aurait pu être écrit mieux. Enfin, la vérité, c'est que l'intention et l'objectif poursuivi n'est pas du tout celui que les gens ont perçu. Mais c'est une énorme maladresse politique pour moi, c'est pour ça que je l'ai pas voté. C'est qu'on est en plein confinement, les gens ont l'impression qu'on leur réduit leur liberté, comme si en plus le gouvernement avait un agenda pour faire chier le monde et en privant les gens de liberté. Non mais enfin ça. Donc les gens ressentent une privation de liberté, qui est réelle parce que c'est comme ça et qu'on est confiné à cause d'une maladie, dont on ne peut rien, en tout cas on essaie de tous lutter ensemble contre. Et à ce moment-là, on discute d'un article de loi qui laisse penser qu'on pourrait vouloir réduire des libertés.
En réponse à tous les mécontentements, l'article a été modifié. Seulement deux formules de phrases ont changé. Le fond n'a en rien été modifié. L'article est toujours aussi flou. L'intention s'est transformée en intention manifeste de nuire et il a été rajouté dans un but malveillant. Waouh, ça change du tout au tout. La différence est flagrante là. Enfin bref, la loi a été adoptée avec des changements ridicules qui ne résolvent pas le problème que pose cette loi. On peut être amené à se demander si ce n'est pas directement la démocratie qui est menacée. En effet, cette loi a été dans un premier temps adoptée à l'Assemblée nationale en pleine période de crise où d'autres projets devraient être prioritaires. La loi a été adoptée malgré les fortes contestations des Français et des Françaises. Contestations exprimées lors de manifestations qui ont subi de fortes répressions de la part des forces de l'ordre. Cette loi est également liberticide, car elle ouvre la porte à des dérives. En fonction du juge, un acte sera jugé ou non de volonté manifeste de nuire, et cet acte pourrait être celui de filmer des violences policières. Le manque de clarté de l'article n'est pas le seul problème de cette proposition de loi. Juste supprimer l'article 24 ne suffirait donc pas. En effet, l'article suivant, le 25 donc, explique
« Le fait qu'un fonctionnaire de la police nationale ou qu'un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service » ne peut lui être reproché lors de l'accès à un établissement recevant du public.
Donc, en dehors de leurs heures de service, les policiers pourront garder leurs armes. Pourtant, en dehors de leurs heures de service, ces fonctionnaires devraient être des citoyens comme tout le monde. On voit donc que les forces de l'ordre ne sont pas considérées comme de simples citoyens par le gouvernement. Ils bénéficient aujourd'hui d'un réel traitement de faveur légale. Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur, explique l'existence de ce projet de loi car selon lui, cette loi permet de protéger ce qui nous protège. Pourtant, le but d'une loi est de protéger les citoyens, et non pas de les empêcher de dénoncer des abus. De plus, cette loi est totalement incohérente. En effet, dans le code pénal, un article prévoit de punir le fait d'empêcher un citoyen de filmer une intervention policière. Donc, on peut être puni de filmer, mais il est interdit de nous empêcher de filmer. En plus de cette contradiction, des lois protègent déjà les citoyens contre le cyberharcèlement ou encore protègent l'identité des personnes dépositaires de l'ordre public. L'apparition de la loi sécurité globale, en particulier dans le contexte actuel, est donc illogique et dangereuse. Si on y réfléchit bien, ce projet est une loi de l'État, pour l'État et par l'État. Nous sommes bien loin de la doctrine de Lincoln d'un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Doctrine étant une des raisons mêmes de la démocratie. On comprend donc que l'intérêt du gouvernement n'est pas de défendre la démocratie, pourtant principe phare de la République, mais de défendre un système qui n'avantage plus ses citoyens. Il ne faut surtout pas remettre en question ce système au risque d'être un mauvais citoyen. D'ailleurs, Gérald Darmanin ne s'en cache pas, puisqu'il considère que le cancer de la société, c'est le non-respect de l'autorité.
Bon, et là, maintenant Madame Schiappa nous parle de son intention de créer un cercle vertueux de la citoyenneté, qui viserait à désigner des « prodiges de la République ». Il s'agirait donc de récompenser des citoyens méritants, ceux qui se distinguent par un engagement citoyen exemplaire, ceux qui répondent aux valeurs républicaines que le système veut à tout prix défendre. À l'école, ce sont ces mêmes valeurs que nos professeurs se sont tant évertués à nous faire connaître et respecter. Ce sont celles qui nous disaient que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Un pays où liberté, égalité, fraternité est la devise. À part quand la solidarité et la fraternité se perdent quelque part dans la vallée de la Roya. Par exemple, chez Cédric Héroux, un agriculteur militant qui avait aidé quelques centaines de migrants à passer la frontière italienne jusque chez lui. Bon, il avait notamment été condamné à plusieurs mois de prison avant d'être relaxé par la cour d'appel de Lyon. Mais c'est à ce titre qu'il avait répondu à Marlène Schiappa et son dispositif républicain de prodige par un sarcastique... Et comme on l'évoquait au préalable, les représentants du gouvernement actuel sont incapables de reconnaître les incohérences de ce qu'ils promeuvent et de se remettre en cause, notamment vis-à-vis de l'arme ultime qu'est la République, celle qui cherche à dégainer en toute occasion. Alors nous, qui avons pris l'habitude de nous regrouper chez l'un chez l'autre, ou par visioconférence, à défaut de pouvoir sortir passer 18 heures de chez nous, et ce, pour discuter et débattre de ce qu'on aborde aujourd'hui. Et donc, on a voulu aller un peu plus loin sur cette voie, on a voulu mettre en parallèle, d'un côté, les valeurs républicaines qui ont l'air de tant tenir au gouvernement, de l'autre, les lanceurs d'alerte, ceux à qui l'investigation permet d'être en possession de sources suffisantes à propos d'affaires qui sont estimées dangereuses pour la société, l'environnement, un groupe de personnes, une nation ou... Enfin, la liste continue. Et nous, nous allons de ce fait parler du cas de Wikileaks et de Julian Assange.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.
Amnesty International nous donne la définition d'un lanceur d'alerte comme suit.
C'est une personne qui révèle ou signale un état de fait en mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement, c'est-à-dire pour le bien commun et l'intérêt général.
Les lanceurs d'alerte constituent en quelque sorte le dernier rempart contre la gangrène que sont les mensonges des gouvernements et des dirigeants pour se protéger. Ce sont comme des super-héros de la République donc. Si on vous parle de lanceurs d'alerte, il est donc impossible de ne pas aborder Wikileaks, l'agence de presse fondée en 2006, et son créateur, Julian Assange, entre autres militants, journalistes et informaticiens. Et si aujourd'hui on aborde le sujet des lanceurs d'alerte, c'est notamment puisqu'Assange est le sujet d'une affaire politique et judiciaire, car il est accusé d'espionnage aux États-Unis. Et ce, puisqu'il a participé à la fuite et la publication d'informations secrètes du gouvernement américain, et en particulier sur la manière dont il faisait usage de la force militaire. Les États-Unis justifient les mesures prises par leur gouvernement, notamment en Irak et en Afghanistan, et ce, comme une suite à l'après 11 septembre et une réplique au terrorisme. L'anonymisation des sources lanceurs d'alerte par le site internet Wikileaks permet de ne pas remonter jusqu'à la source de la fuite. Et c'est en ça que Wikileaks a révolutionné la diffusion d'informations secrètes des gouvernements, en influençant d'autres plateformes à faire de même. Et dès lors, vous comprendrez que Julian Assange dérange. Depuis sa création, l'ONG a publié plus de 10 millions de documents authentiques. C'est vraiment colossal. Et elle agit comme une barrière face à la propagande des pays dominants. Du coup, avec la transmission d'informations et de documents militaires classés secret défense sur la mort de civils irakiens et afghans, Chelsea Manning, analyste de l'armée américaine, aide ainsi à étoffer la liste de Wikileaks. Le monde entier a désormais des preuves vidéo que les États-Unis ont menti et ont caché de nombreuses fois des actes criminels commis dans le Golfe Persique. Les vidéos de civils, journalistes et d'enfants attaqués par des militaires américains s'esclaffant à la vue des cibles atteintes, des conversations enregistrées et d'autres sources dont les enjeux sans précédent sont publiés au vu et au su de tous. Pour Manning, condamné à 35 ans de prison pour trahison, c'est en quelque sorte un exemple de martyr que les États-Unis veulent utiliser pour dissuader d'autres lanceurs d'alerte.
Le message est clair. Si vous vous aventurez sur ce terrain, au demeurant très glissant, vous n'en sortirez pas indemne.
La première fois que j'ai vu la vérité en face, ouais. J'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place. Okay. Nos cerveaux sont complexes et beaucoup de nos attaches. Quoi? On les crée nous-mêmes avec ce qu'on montre et ce qu'on cache. Okay. Est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Est-ce que si je reçois de la violence, je la redistribue? Ou bien je consolide mon armure pour stopper la dégradation? Ensemble on forme tous une nation. Personne t'apprend à penser par toi-même, la réponse est dans la question. Mais le jour où tu décides de sauter les barrières et de voler comme un esprit libre, tu sentiras même plus la pression. La vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment, dans les yeux ou dans les mouvements.
C'est juste en face, gros.
Elle est dans l'amour de tes proches malgré leurs lésions, dans la force qui fait que tu te lèveras demain pour ta mission.
La vérité se trouve en face de toi. La vérité se trouve en face de toi.
En face de toi, juste en face de toi. Si tu refuses,
la vérité se trouve en face.
Assange est depuis le début des années 2010 victime d'une suite d'événements insensés. On n'est pas là pour faire un exposé, ni même pour inculquer une façon de penser qui nous est propre à chacun, mais un cours abrégé du traitement qu'Assange a subi paraît inévitable. Celui à qui il était venu à l'esprit d'avertir sur des agissements du gouvernement, de la première puissance mondiale. Ce qu'il estimait dangereux, quoi. Liberté surveillée pour donner suite à un mandat d'arrêt au Royaume-Uni, et ce en raison d'une affaire de viol fomentée en Suède. Entre 2012 et 2019, il est confiné dans l'ambassade d'Équateur à Londres et obtient même la naturalisation équatorienne et l'asile politique. Mais il est ainsi pris au piège car extrêmement surveillé et il est menacé d'être arrêté à tout moment par les forces britanniques et américaines. Julian Assange n'est concrètement accusé de rien puisqu'il n'a jamais réellement commis de crime sur le sol américain, ni même sur le sol britannique d'ailleurs. Il est informé juste d'un danger. Du coup, le nouveau président équatorien et son gouvernement retirent le soutien apporté à Assange et ils le déchoient de la nationalité équatorienne. Son droit d'asile prend fin en avril 2019. Et Julian Assange, l'homme que les États-Unis veulent à tout prix attraper, est arrêté dans l'enceinte même de l'ambassade dans laquelle il aura passé 7 ans. 7 ans durant lesquels il aura mené un combat afin de ne pas être extradé et jugé de manière totalement partiale et arbitraire.
Depuis, et après avoir été condamné par la justice britannique, il est maintenu prisonnier dans la prison de haute sécurité la plus importante du pays.
Les conditions de détention d'Assange ont été constatées comme très dangereuses pour sa santé, et par un expert de l'ONU. Et il subit, vous l'imaginez bien, un stress intense de manière constante, qui plus est, dans la conjoncture actuelle de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.
À titre informatif, juste comme ça, la justice suédoise clôt l'affaire des soupçons de viol qui pesaient sur Assange en 2019. Et le tabloïd britannique The Guardian dévoilera que la justice suédoise souhaitait clore l'affaire dès 2013, faute de preuves, mais que les gouvernements britanniques mettaient la pression.
Ces fichiers, ordinateurs, téléphones et tous les objets personnels d'Assange sont saisis et envoyés aux USA. Il y a moins de 2 semaines, le 4 janvier 2021, se tenait le procès de Julian Assange, devant un tribunal britannique pour savoir s'il devait être extradé aux États-Unis ou non.
Breaking news. The founder of WikiLeaks, Julian Assange, is finding out if he'll be extradited to the United States.
Julian Assange has just been told good news.
C'est le combat d'un journaliste contre Goliath, en fait. Les mensonges de la première puissance mondiale contre la vérité. La liberté d'expression contre la volonté de faire taire. Et finalement, la quête d'un monde qui cocherait ce que les valeurs républicaines promeuvent. Bon. La demande est refusée. Et le ministre de la Justice des États-Unis annonce son intention de faire appel. La demande de remise en liberté demandée par le parti d'Assange est également refusée, mais par crainte qu'il tente de fuir le Royaume-Uni et qu'il se suicide. Crainte justifiée aussi par l'important réseau de soutien dont il dispose. À l'heure actuelle, Assange demeure détenu dans la prison de haute sécurité la plus importante du Royaume-Uni, simplement pour avoir créé une organisation qui voulait informer et dévoiler les mensonges de nos gouvernements. En France, les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi Sapin 2, mais c'est pas faute d'avoir demandé un potentiel droit d'asile à la France, étant donné que l'actuel garde des Sceaux et ministre de la Justice du pays des droits de l'homme avait intégré l'équipe d'avocats du lanceur d'alerte. Et éventuellement, il avait déposé une requête de demande de droit d'asile au président Macron, qui a refusé. C'est finalement le président du Mexique qui a proposé l'asile politique à Julian Assange ce 4 janvier. La notion d'intérêt public qui motive l'action du lanceur d'alerte fait que ce ne sont pas des espions, des alarmistes ou des traîtres. WikiLeaks est une ONG qui agit de manière désintéressée. Et en attendant de savoir ce qu'il adviendra du cas Julian Assange, le résultat sera un réel tournant. Et quoi qu'il en soit, cette affaire et ses enjeux sont d'ores et déjà une véritable atteinte à la liberté d'expression, le droit d'informer ou encore le droit de rendre public des informations qui font peser un risque grave à la santé publique. Les lanceurs d'alerte sont essentiels à la transparence de la démocratie. Il s'agit d'une obligation morale, sociale et indissociable d'une motivation personnelle. Elle est prescrite au nom de l'intérêt général. Et finalement, être un lanceur d'alerte, ce n'est pas juger ou définir le bien et le mal. C'est plutôt faire s'affronter des arguments qui constitueront de ce qui est éthique ou non. Ce qui répond aux valeurs inculquées par la République ou non.
Pendant que certains se battent contre les travers d'un système en crise, notamment en rendant la vérité visible, d'autres aident aussi, en construisant ce qui donne de l'espoir. Parce que oui, l'espoir est possible. L'espoir, il se construit. Et même, l'espoir, il est là. Quand on pense aux initiatives qui vont dans le bon sens, quand on cherche des bonnes nouvelles, on a tendance à chercher loin de nous. Cette inspiration d'un monde qui change dans la bonne direction, on la cherche dans la presse, sur les réseaux sociaux, on l'espère à portée de vue dans le journal télévisé ou à portée d'oreille à l'occasion d'une matinale de radio. Chercher les brèches positives dans un monde profondément en crise, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, est-ce que vous vous imaginez la surprise que procure la découverte d'un lieu, d'un espace novateur, porteur de l'espoir de lendemain meilleur, en plein cœur de notre ville de Marseille? Encore plus dissonant, pouvions-nous imaginer que cette bulle d'entraide, de solidarité et d'humanisme se construit sous les néons encore en activité d'un M jaune bien connu? Là où une firme de restauration rapide internationale portait des valeurs de consumérisme et de rentabilité, des équipes de bénévoles et d'anciens salariés se sont réappropriés cet ancien temple de la consommation pour en faire un lieu d'entraide et de fraternité. De l'ancien McDonald's de Saint-Barthélemy à ce qui s'appelle maintenant la plateforme d'entraide L'Après-M, on part à la découverte d'une lutte créatrice, du combat de celles et ceux qui se réapproprient cet espace particulier pour en faire quelque chose de nouveau. Pour marquer le coup, pour ancrer ce changement de paradigme dans le temps, beaucoup de choses ont été faites, visuellement notamment. Les bénévoles ont repris la façade de l'ancien restaurant pour y afficher de nouvelles couleurs et un nouvel emblème. Je vous jure, ça marque vraiment. On voit plus que ça sur ce rond-point. Et ça a commencé par de la récup. Les lettres qui formaient le logo McDonald's ont été démontées, recoupées, transformées et remontées pour écrire ce qui trône maintenant fièrement au haut du bâtiment. L'après-M. Il est là l'après. Il est là l'espoir. Et cette histoire, elle est aussi sympa à entendre que belle à voir. Derrière cette façade, c'est tout un processus qui se construit. L'emblème de l'après-M semble crier à lui seul toute l'espérance d'un monde nouveau. À la rentabilité, nous opposons l'entraide. À l'exploitation, nous opposons la création commune. À l'individualisme, nous opposons l'intelligence collective. À la survie, nous opposons la vie. C'est ça que semble nous dire cette nouvelle façade. Comment ça? Vous pensez qu'un mur ne peut pas parler? Voyez donc ce qu'en disent celles et ceux qui sont passés le voir.
Magique. Tu n'as pas vu la transformation, toi? Non, tu n'étais pas là il y a 2 jours. Quand c'était tout marron, tout moche. Là, quand tu passes, tu vois ce lieu de vie. C'est une pépinière. Tu as vu comme il est joli avec ses nouvelles couleurs? Puis c'est nov, il est le truc. Il n'est pas agressif, il se fond dans le truc. Hier soir, quand je suis venu, tu es venu toi hier soir aussi? Oui. Tu as vu quand tu arrives avec l'éclairage, comme il est beau?
C'est magnifique.
Il est magnifique, on dirait un bijou. Tu connais l'histoire de... C'était quoi? C'est le CID. Nous partîmes 500 et par un prompt pour renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est exactement ça. Il n'y avait rien. Il y a une semaine, il n'y avait rien. Aujourd'hui, demain, il va y avoir 2000 et quelques cadeaux pour les petits Marseillais, les SDF et les gens en difficulté. Un restaurant qui marche, des gens magnifiques. Et regarde, derrière toi, que des sourires. Tu sais comment on fait pour savoir quand un endroit est bien? C'est on compte le nombre de personnes avec le sourire.
Laïla, j'ai 7 ans. J'aime trop cet endroit, c'est trop bien.
Tu trouves ça joli?
Oui.
Et c'est un vrai McDo ou pas alors?
Pas trop pour moi.
Pour moi, c'est la Tour Eiffel des quartiers nord. Voilà. C'est rayonnant, il est dans un carrefour stratégique. Et il y a les mines à côté, il y a De Caroli qui est une grosse pharmacie au niveau de Marseille. Et il y a tous les quartiers nord aux alentours. Quoi, je veux dire, il y a pas mal de grandes cités qui sont en grande difficulté. Et c'est pour ça qu'à travers ce projet, il ne faut pas oublier, c'est que... L'argument numéro un, c'est la réinsertion de la population, c'est la création d'emplois. Voilà quoi, donc il y a beaucoup de projets. On demande que ce projet vraiment se concrétise, devienne pérenne, pour vraiment se mobiliser à 200% pour la population marseillaise qui a un grand besoin.
Se mobiliser à 200% pour la population, ouais, on est plus sur du 2000%. Ici, ça foisonne, ça construit, ça se rencontre et ça reconstruit encore plus grand. ça fait des années que ça dure.
Notre dame veille, la pression tombe, les nuits s'éveillent. Les mêmes qui dames que la veille blanche, je cherche l'amour, fuis l'oubli. Plein de fiel, certains ont de quoi faire péter. Où jouent les mecs friqués, histoire d'épater, mais sans chéquer, c'est l'échec sur les.
On en parle aujourd'hui de l'après-m. Mais si vous nous suivez depuis un moment, vous avez peut-être en tête cette émission d'octobre 2018 où on vous parlait déjà de ce qui était à l'époque une lutte syndicale, professionnelle, pour le maintien de l'activité dans ce restaurant, véritable bassin d'emploi dans les quartiers nord de Marseille.
Résultat de ces conditions de travail, difficiles et précaires, un taux de turnover des salariés de l'ordre de 88%, c'est-à-dire un taux de rotation, de renouvellement des employés dans une même entreprise, par démission, par licenciement, par rupture à l'amiable, qui est de 88%. À cela s'ajoute dans un grand nombre de restaurants une pression à l'encontre des syndicats et des personnes mobilisées pour améliorer leurs conditions de travail. McDonald's, venez comme vous êtes, mais pas trop longtemps.
À l'époque, on vous tenait quelques mots sur le système McDo, là où le turnover est de mise. Et déjà, ce McDonald's sortait du lot. Ici, vous pouviez croiser, de manière inédite, des gens ayant 20 ans de carrière dans le même restaurant. Et ce n'était pas le seul caractère unique de ce restaurant. Ici, les salariés bénéficiaient du 13e mois, de la revalorisation des horaires de nuit et même de contrats adaptés aux étudiants pour leur permettre de se protéger face au rouleau compresseur d'un employeur exploitant la précarité des jeunes. Bon, vous commencez à le comprendre, l'après-m, c'est le fruit d'une histoire qui commence par la lutte. Pourquoi ça ne nous étonne pas ?
Il y a eu une lutte qui a duré 4 ans par des salariés qui étaient, qu'on peut considérer comme le petit village de Gaulois-Basanais irréductible, qui ont fait plier une des plus grandes entreprises mondiales et qui aujourd'hui représente une exception avec un truc énorme. Sauf que ces salariés qui ont fini par occuper leur lieu de travail, au lieu de le transformer en coopérative ou en lieu d'occupation, en ont très 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 vite fait un lieu de solidarité dans un premier temps et puis d'entraide dans un second. Pendant que les restaurants du cœur fermés, le Secours Populaire étaient fermés, pendant que toutes les associations caritatives étaient fermées, dans les quartiers nord, il y avait des gens qui étaient en détresse alimentaire totale. Les gens ne risquaient pas à ce moment-là de crever du Covid, mais de crever de faim. Et que donc les salariés ont proposé que leur lieu devienne une plateforme de distribution alimentaire. Ils ont regroupé autour d'eux une soixantaine d'associations des quartiers nord de Marseille.
Je suis bénévole à la plateforme solidaire. J'ai découvert l'expérience avec la plateforme avec le premier confinement. On s'est organisé et on a réussi à avoir des gros dons alimentaires, c'est-à-dire des palettes de farine, des palettes d'huile. Je n'ai pas le tonnage exact, mais c'était énorme. C'était des chiffres à donner le vertige. D'ailleurs, on avait, au niveau de la plateforme, il n'y avait pas un centimètre de disponible. Et sincèrement, je ne trouve pas les mots pour expliquer ce premier confinement et cet excès d'abondance, tout ça. Tandis que là, c'est le deuxième, c'est tout le contraire. Hein. On galère, il y a moins de dons.
Alors aujourd'hui, à l'après-m, on galère. Il y a moins de dons qu'avant. Pour répondre à ça, une cagnotte en ligne a été déployée. Et les bénévoles sont disponibles pour recueillir directement ce que vous pouvez donner en alimentaire, mais aussi en vêtements et accessoires. Parce que oui, la récolte de dons est essentielle. Depuis le début du premier confinement, l'après-m, plateforme d'entraide multiforme, est devenue le cœur d'une initiative profonde. Tous les lundis matins, ici, au 214 Chemin de Sainte-Marthe, est organisée une distribution de colis alimentaires. C'est dur de vous donner des chiffres pour vous faire comprendre l'ampleur de ce qui est fait ici. C'est entre 750 et 900 familles qui bénéficient chaque semaine de cette aide gratuite, sans distinction. Tout le monde repart avec son colis, mais pas que. Un sourire, un échange, un accompagnement, de la considération sont servis en même temps que les denrées alimentaires dans ce restaurant réapproprié et transformé en plateforme. Ponctuellement, des magasins gratuits de vêtements sont organisés, des ateliers de construction d'abris pour personnes sans domicile sont animés, la végétalisation de l'espace urbain et le ramassage de déchets est mis en place, des sessions d'accompagnement scolaire et de formation des plus jeunes sont déployées. Les initiatives sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas toutes les citer. Seulement, on vous invite à venir voir sur place directement ce qui se passe, vous imprégner de cette énergie et voir ce que vous pouvez y apporter. L'exaltation de ce foisonnement d'idées. La concrétisation de ce processus long qui a fait passer 3 associations et 2 quartiers de Marseille à l'alliance de plus de dizaines d'associations, de dizaines de quartiers, de dizaines de bénévoles, s'est donné à voir lors d'une journée d'ouverture inédite le 19 décembre.
Le but de cette journée, c'est de montrer que cette zone géographique a été frappée par la précarité qu'elle mérite d'avoir son respect et au lieu de la pointer du doigt, qu'on leur tende la main. Nous, aujourd'hui, on ne dit pas « venez comme vous êtes ». Comme vous êtes, vous venez. Parce que pour nous, c'est important. Parce qu'on remet l'être humain à l'avant. Et aujourd'hui, notre acte est symbolique, est fort. Et on a envie de partager cet acte-là le plus large possible.
Et oui, c'était une journée extrêmement symbolique. L'acte était fort. Le 19 décembre, les bénévoles de la plateforme, sous forme d'une inauguration symbolique, sont retournés en cuisine. Pendant des semaines, on a pensé, créé, développé et préparé un sandwich, le burger solidaire. Un pain maison, une galette de falafel façonnée à la main, des légumes de saison issus de producteurs locaux, des frites qu'on a coupées nous-mêmes, des poissons confectionnés avec amour et des recettes top secrètes pour les sauces, tout était fait maison, vegan, local et sain. En 3 heures de rush, le 19 décembre, c'est plus de 850 burgers qui ont été servis aux nombreux bénévoles, soutiens, curieux et nouveaux qui sont passés découvrir ce lieu pas comme les autres. Croyez-moi, rares sont les restaurants qui peuvent débiter autant de burgers en si peu de temps. Autour de ce sandwich, ce sont des valeurs qui se développent. Sur l'alimentaire, déjà, avec la question de comment nous pouvons reprendre collectivement le pouvoir sur ce que l'on mange, mais également sur la suite à donner à ce lieu. On a un véritable savoir-faire ici, une expérience de fou. Les compétences sont là, le matériel est maîtrisé et le lieu est connu. Alors, donnez-nous les moyens légaux de faire ce qu'on fait déjà. Aidez-nous à aider. À terme, la plateforme d'entraide se rêve en restaurant social, où les emplois d'insertion seront fournis au même titre que les formations qualifiantes pour celles et ceux qui en ont besoin. Permettre à chacun et chacune d'accéder à un emploi plein de valeur pour soi et pour les autres. Ce doux rêve, on veut désormais le rendre accessible. À ceux qui en douteraient, on répond par l'interrogation. Pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas ici?
C'est un McDo hacké, en fait, qui a été hacké par ses salariés, puis par le peuple, pour se réapproprier l'outil de production, le mettre au service en fait, réellement de l'intérêt commun. C'est-à-dire que là, il y a de la bouffe, il y a une collecte, je vois, de cadeaux solidaires. Ça a été l'aide alimentaire pendant le confinement. Ça peut être un point central de l'aide aux devoirs aussi. Enfin, voilà. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont transformé un symbole du capitalisme en symbole de l'intérêt général et du bien commun, quoi. Je vois qu'il y a diverses populations, mais il y a clairement des gens qui sont venus ici que pour ce truc-là. Et donc, celui-là, à mon avis, il me semble assez authentique. Mais j'ai vu dans d'autres grandes villes, tu vois, cette espèce de petite verrue bobo au milieu d'un truc très populaire qui est totalement déconnecté en fait, de la vie du quartier. Parce que dans les conversations là, écolo de centre-ville, c'est toujours ouais, comment on se rapproche des quartiers populaires, l'écologie populaire et tout. Ben là, c'est concrètement un exemple en fait, de tu as une lutte quelque part, toi tu n'y vas pas avec tes pensées écologiques, tu vas dire, tu vas essayer de convertir les gens, mais tu vas d'abord les aider dans leur lutte et puis après on va faire un truc ensemble où il va y avoir de l'intelligence collective qui va se créer, qui va se développer, les uns vont apprendre des autres. Et là, voilà, c'est ça l'écologie populaire aussi, quoi.
Sur un studio à Teros, le N à la prod, tous au calcaire, écoute ça.
Et si d'une cité dans les médias rafales, quand sonnent les cris des rafales, dont-ils parlé de l'entraide des pauvres, du combat pour la vie quand la misère s'étale?
Dans le quartier délaissé, un peuple entassé, enfermé à goûter au délire d'une serrure verrouillée, verrouillée, adossée à un mur fissuré, voie tracée sous asphalte brûlé, zéro revenu pour son abandonné. Des fans, des hommes ont rempli des paniers dans les rues, c'est pas devenu Fortnite, ça cède plutôt que ça se fight. Votre réalité de ce côté de la carte, les tours délabrés, les rênes isolées, les fous calibrés, les chevaux sont lâchés, les pions sont mangés, échec et mat. Disque des cartes, ils sont dépolitisés, ils ne comprennent rien, des cartons, c'est très bien. Pourquoi toute une vie tu subis la misère? Les riches marchent sur les prolétaires, vie de travail au sort du capital qui rate toute la mise de la table. Ne te jette que des restes misérables quand ça crame de part d'unité nationale.
À À la Préhem, c'est plus que des colis qu'on remplit et qu'on distribue. C'est plus que de l'aide qu'on fournit. C'est plus qu'un engagement associatif qu'on y déploie. Faut le voir pour le croire. Passer du temps là-bas, c'est se donner à voir une réalité déconcertante. C'est observer une valse millimétrée d'acteurs et d'actions qui jouent la partition de l'entraide. L'après-m, c'est une merveille de mécanique. C'est un moteur surpuissant. C'est une machine sociale bien huilée où chacun convertit l'énergie à sa manière. Vraiment, c'est un moteur où chaque élément apporte sa contribution pour produire du mouvement comme autant de rouages indispensables. Dans cet ancien restaurant, une somme phénoménale d'énergie se croise pour donner naissance à un projet grandiose. C'est fascinant à observer, excitant à produire. Si facilement absorbé, c'est si tendu d'en sortir, on s'y fait happer. La force d'attraction d'un tel projet est immense. Rendez-vous compte. Dans les ruines encore fumantes d'un McDo déchu, se pense et se crée la brèche tant attendue que l'on a toujours rêvé de voir apparaître. Sur l'autoroute d'un désastre, bordée de M jaune, une bretelle de sortie apparaît soudain. Cette nouvelle route, éclairée du même néon, peut pourtant nous conduire autre part. Cette destination, c'est peut-être le truc le plus excitant. Là où, ensemble, par la force du collectif, on peut porter une dynamique. Ce que l'alliance de forces diverses peut produire d'ingéniosité. Ce qui est rendu possible lorsque les énergies sont canalisées, se rencontrent et se transforment en forces créatrices. Parce que les mots ne suffisent pas. On ne peut que, encore une fois, vous inviter à venir sur place découvrir tout ça. C'est que le début d'une très belle aventure qui ne se construira qu'ensemble. Alors, quand le temps vous le permet, rendez-vous à l'après-m. Il y a toujours quelque chose à y faire et quelqu'un pour vous y accueillir. En plus, le café y est très bon et les gens sont super gentils. Pour terminer sur une note intemporelle, on vous laisse avec quelques mots d'un certain José Bové. Il y a 21 ans, cette figure du militantisme altermondialiste démontait le McDonald's de Millau pour y protester contre la mondialisation néfaste portée par la firme OM Jaune. Le 19 décembre, il était présent à l'après-m et il a tenu ce discours qui nous semble être la meilleure conclusion possible. D'une lutte d'opposition et une lutte de création, la plateforme d'entraide véhicule décidément beaucoup d'espoir pour la suite. La passerelle est faite.
À l'époque, on avait dit la République française, elle s'est construite sur un symbole. Le symbole, c'est le démontage de la première prison qui s'appelait la Bastille. Et c'est devenu le symbole de la République. Donc un démontage est un symbole constructif puisqu'on construit. Eh bien, je dirais qu'avec l'après-m, on est maintenant non plus avec la prison, mais ce fast-food ici à Marseille est devenu la place de la Bastille, comme elle existe à Paris, avec l'Opéra, une des plus belles places qui symbolise la République. Eh bien, pareil, je dirais que 21 ans après le démontage de ce fast-food, de cette standardisation, naît, éclos ici à Marseille, un lieu qui est le symbole de la façon de vivre maintenant, de la solidarité organisée à la base, mais avec le soutien aussi d'énormément de gens. Et c'est une construction au quotidien. Il n'y a pas une idéologie au départ planifiée. Ça se construit au fur et à mesure de ce que les gens attendent. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui s'élargit, qui a vocation effectivement à se démultiplier, pas forcément sous les mêmes formes, mais de se dire, tout est possible. On n'est pas enfermé dans un destin, on n'est pas condamné à vie. C'est souvent dans ces situations-là qu'émerge une étincelle qui permet de donner un espoir. Ici, dans le quartier, mais bien au-delà. Quand les gens reprennent confiance, quand la question de la dignité, quand la dignité de chacun permet de s'ouvrir aux autres, effectivement, on construit quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas le fric, ce n'est pas le pouvoir qui compte dans ces moments-là. C'est au contraire d'être tous ensemble, d'être égaux. Ce sont les symboles de notre République. C'est la fraternité.
Dans cette émission, on a décortiqué, tant que faire se peut, les dévoiements du langage par les pouvoirs en place qui ont cours et qui ne cessent de s'amplifier. Au nom de cette République, des mesures autoritaires sont instaurées. Et au-delà des effets pratiques et matériels, elles se faufilent insidieusement dans nos esprits, sans que l'on ne s'en aperçoive, et formatent nos visions et figent notre langage. À nous de revenir au sens premier des principes républicains, à leur sens originel, qui sont encore alloués, pour ne pas tomber dans les dangers de la neuve langue, qui s'accapare des termes après les en avoir dépouillés. À nous de nous réapproprier ces termes qui sont détournés et redonner corps au projet politique qui les a vus naître. Multiplions les projets comme l'après-m, diversifions ces lieux qui refont honneur à des mots bafoués, que des pouvoirs qui virent totalitaires sont en train de nous voler en leur accolant une signification tout autre. C'est à nous de revenir aux sources des principes démocratiques, pour ne pas se laisser avoir par ces dévoiements du langage venu d'en haut. Ne devenons pas dupes d'une tactique qui consiste à marteler des mots dans le but de conditionner nos visions du monde et nous pousser à accepter des mesures injustes et génératrices de clivages. On constate une mise en avant des thématiques sécuritaires et identitaires pour occulter des situations sociales et économiques graves, accentuées par des politiques délétères, mises en place souvent au nom de la République. Fil conducteur qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. En inventant de nouvelles pratiques, telles que celles de l'après-m, nous avons la preuve que la gauche existe encore, la gauche des valeurs ancrées et des personnes concernées, loin des partis politiques et des institutions qui ont galvaudé ces principes. On ne le dira jamais assez, le mot est hautement politique. Pour Laëlia Véron, agrégée de français et docteur en langue et littérature française, ceux qui ont le pouvoir ont la parole, et ceux qui ont la parole ont le pouvoir. Elle a publié l'ouvrage « Le français est à nous », dans lequel elle montre les liens entre symbolique et matériel qui se jouent dans le langage. Dans son podcast, appelé comme son ouvrage « Le français est à nous », qu'on vous recommande fortement, elle aborde avec des invités différents plein de sujets qui touchent à la langue et à ses enjeux. À chaque fois, on se rend compte que la langue, la parole, le mot ne sont pas neutres et qu'ils révèlent des rapports de force et de pouvoir que l'on peut défaire en reconquérant des concepts devenus creux. Pour reprendre l'image du jeu de rôle, il nous est possible de redessiner un plateau, d'écrire de nouvelles règles et de créer des rôles qui ne sont pas voués à disparaître.